Mais bon, avant de pouvoir aller s'asseoir les fesses au centre Vidéotron et regarder un match de la Ligue nationale, il va falloir remettre de l'argent dans les poches des gens, des contribuables.
Ah, ça, c'est une priorité.
Et entre autres, un des aspects, puis je veux te faire entendre ça avant qu'on parle à notre invité Gabriel Giguère, un des aspects où on pourrait en remettre dans les poches des gens, c'est surtout les aînés qui ont travaillé toute leur vie, que ce soit à salaire minimum ou à gros salaire, ont contribué toute leur vie, qui ont payé des impôts, qui l'ont fait leur part. Puis au moment où ils veulent travailler un peu à temps partiel parce que le coût de la vie coûte cher et qu'ils ont de la misère à joindre les deux bouts, bien, on les impose encore puis on leur impose des pénalités. Ce matin, dans Montréal Live, Jonathan Poulain, du Parti qui va se présenter pour le Parti conservateur du Québec, disait, ben, on s'en va au Congrès en fin de semaine et voici deux propositions qu'on va débattre pour peut-être l'insérer dans notre programme en vue des prochaines élections. C'est entre autres une proposition de lui qui vient des gens de la Beauce qui dit on pourrait alléger le fardeau fiscal justement des aînés et il parle également d'une proposition de Drummondville où on pourrait alléger l'impôt sur le temps supplémentaire. Par exemple, je vous le fais entendre, puis après ça, on va parler avec notre invité Gabriel Giguère.
Nous, on propose que pour les travailleurs de 65 ans et plus, le premier 50 000 $ ne soit pas imposable. Pour favoriser les travailleurs d'expérience, pour qu'on soit moins dépendant de l'immigration économique.
Pour tout le monde, là.
Oui, 65 ans et plus, tu continues à travailler temps plein, ton premier 50 000 au Québec okay. N'est pas imposé.
Ah là là, j'adore ça.
Deuxième que je te donne en passant, en tout cas, qui vient de Drummond.
En feu.
Mes collègues de Drummond, puis je vais aller les appuyer.
Oui.
Une proposition pour faire en sorte que de diminuer l'impôt sur le temps supplémentaire.
Donc voilà, c'est au cœur des préoccupations des Québécois parce que beaucoup sont obligés d'avoir deux puis trois jobs, puis même les aînés sont obligés de retourner au travail. Pour en parler de l'Institut économique de Montréal, Gabriel Giguère. Gabriel, merci d'être là
Salut
ce matin.
Gabriel. C'est un plaisir.
Donc, je sais que vous avez sorti un communiqué de presse là-dessus. Les aînés, et des milliers d'aînés à faible revenu, sont encore pénalisés parce qu'ils travaillent.
Totalement. En fait, l'État, là, nous, on s'est surtout concentré sur le fédéral, là, mais ce qu'on voit ici, là, c'est qu'on a des aînés, de plus en plus d'aînés d'ailleurs, qui reçoivent le supplément de revenu garanti. Il faut le rappeler, le supplément de revenu garanti, c'est quand on a une petite bourse, hein, on nage pas dans l'argent, faut être très clair sur ça. Et de plus en plus de personnes qui ont 65 ans et plus retournent au travail dans la dernière décennie en termes de proportion. Il y a une augmentation de plus de 50%. Là. Quand on dit que le coût de la vie, ça frappe de plein fouet tout le monde, mais les aînés aussi, c'est dur. L'inflation alimentaire, l'augmentation du coût du logement, les aînés retournent au travail. Et ce qu'on voit, c'est que très rapidement, là, vous êtes un aîné, vous recevez la sécurité de la vieillesse d'environ 8-9 000 $ vous recevez votre supplément de revenu garanti, vous avez un petit peu contribué à la RRQ, hein, le régime des rentes du Québec. Mais des fois, tu le sais, Nick, des fois, tu peux avoir une carrière où, malheureusement, tu as un problème de santé, malheureusement, tu ne peux pas travailler constamment, ce qui fait en sorte que, comme c'est contributif, ben, il y a certains aînés qui arrivent au final à la retraite, 65, 70 ans, pas beaucoup d'argent dans les poches. Et ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas le choix de retourner sur le marché du travail. C'est ce que les données nous disent pour la dernière décennie. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que le gouvernement dit, ben, regarde, pour chaque dollar que tu vas faire en haut de 5 000 $ de revenus, nous autres, on va retirer 50 cents
ben oui.
de notre versement du supplément de revenu garanti. Fait que ce qu'on est en train de dire aux aînés, très concrètement, c'est allez travailler, améliorez votre sort, mais améliorez-le pas trop. Parce que nous autres, on va venir vous punir, on va réduire l'argent qui reste dans vos poches. Fait que dans un contexte comme ça, c'est sûr que l'État vient nuire à l'augmentation de la qualité de vie de nos aînés qui, essentiellement, ont construit le Canada puis le Québec.
Oui, exactement. La contribution de ces gens-là a été faite pendant 30, 40, 50 ans. Et là, même ceux qui ont un peu d'argent de côté pour leur retraite voient ça descendre à vue d'œil en raison du coût de la vie, veulent donner un coup de main et ramasser un peu d'argent. Mais on les pénalise quasiment jusqu'à 50% là, de ce qu'ils gagnent.
Ben, c'est exactement ça. Puis ça, c'est un point là qui m'a fait, là, pardonne-moi l'expression, mais capoter. Quand j'ai regardé les données, parce que je me suis dit, attends un peu, t'as un aîné qui a pas beaucoup d'argent qui reçoit. Tu sais, c'est vraiment une maigre pension au total. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que l'État dit, ben, comme on va évidemment avoir un impôt sur le revenu, mais en parallèle réduire également la prestation du supplément de revenu garanti, ce qu'on voit, c'est que le taux de participation au travail, là, donc ce qui reste dans vos poches, des fois, ça peut fondre jusqu'à 50%. Tu sais, quand on regarde les braquettes d'impôts, ce qui est imposé à 50%? c'est les riches. Ouais, c'est ça. Ils vont faire 200-250 000 $ par année. Puis après ça, on peut discuter si c'est une bonne chose ou pas. Pour les fins de la question, c'est pas le point. Le point, c'est de dire quand on est un aîné à faible revenu, c'est pas normal d'arriver puis d'avoir des taux d'imposition de personnes qui font plus que 100-150-200 000 $. C'est une question de respect aussi pour les aînés. Donc, c'est évident que le gouvernement fédéral doit changer ce qu'il fait. Doit se dire, ben là, mon exemption de 5 000 $, c'est insuffisant pour s'assurer d'une vie digne pour les aînés à faible revenu. On doit prendre cette exemption-là et l'augmenter à 30 000, qui est considéré au Canada comme étant le seuil de pauvreté pour un aîné célibataire qui vit dans un centre urbain plutôt. Fait que comme ça, ça fait en sorte que ben ils en ont plus dans leur argent, tout le monde se sent plus respecté et les coûts liés à cette mesure-là sont très faibles, notamment à la vue des dépenses. Pardonnez-moi ça, mais ridicule parfois du fédéral. Il y a beaucoup de gras à couper au fédéral, mais ça ne devrait certainement pas être aux dépens des aînés à faible revenu.
C'est parce qu'on a l'impression qu'on parle des deux côtés de la bouche. D'un côté, on dit, ouais, il y a des secteurs où on aurait besoin que les gens qui sont à la retraite reviennent au travail, donner un coup de main. Mais si vous le faites, Christy, tu n'as pas le droit de travailler, on va te pénaliser. Je veux dire, je comprends pas qu'on pénalise justement ces gens-là. Puis tu sais, pour quelqu'un qui vit, par exemple, en appartement, qui a 65 ans et plus, qui a 30 000 $ de revenus, c'est impossible maintenant.
Bien, c'est exactement ça. Comment ça fait? Tu sais, ça nous prend une politique qui vient inciter les gens au travail, ou plutôt que l'État arrête de les punir, ce qui, par extension, va les inciter à travailler. Parce que si tu sais que tu vas sur le marché du travail, puis que tout l'argent que tu gagnes, comme tu es un aîné qui a 67 ans, que le coût de la vie t'a fait mal, puis tu sais qu'il va te faire mal dans 10 ans, le problème, c'est que dans 10 ans, tu n'auras plus l'énergie pour aller sur le marché du travail, puis tu le sais. Fait que une fois que tu as ça en tête, puis l'État dit, garde, je vais arrêter de te punir jusqu'à un seuil respectable, ben là, c'est sûr que tu vas te dire, ben, je vais peut-être aller travailler pour m'assurer des vieux jours intéressants, ou du moins d'être moins dans la misère, parce qu'il faut le dire, des fois, c'est vraiment une question de misère. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on désincite, en quelque sorte, avec une mécanique de politique publique qui fait en sorte que après 5 000 $, on commence déjà à très agressivement réduire l'argent qui reste dans les poches des aînés après avoir travaillé à faible revenu. Donc, d'aller de l'avant avec ce type de mesure-là, c'est à la fois de permettre aux gens d'arrêter d'être punis par l'État quand vous êtes un aîné à faible revenu, mais c'est aussi d'être ciblé. Hein. C'est pas de dire, regardez, on va augmenter là, un chèque pour les aînés, tous les aînés, même ceux là, qui ont deux maisons, un duplex, puis qui ont un gros fonds de pension. Non, ici, c'est vraiment dire ceux qui sont dans le trouble, ceux qui ont des besoins, on va les cibler, puis on va s'assurer qu'ils vont pouvoir vivre dignement quand ils retournent sur le marché du travail.
Puis même, j'ai entendu dans mon entourage dernièrement quelqu'un qui approche 70 ans, mais qui a quand même un bon fonds de retraite, là, quelque chose de convenable. C'est pas une richesse, mais assez pour pouvoir rester à la maison, par exemple, pour faire d'autres activités, mais qui s'ennuie, qui se dit « je pourrais peut-être aller donner un coup de main dans des sphères d'activité où on a besoin de personnel, mais en calculant, je me rends compte qu'avec l'impôt et les pénalités, je vais payer pour travailler ».
Ouais, c'est ça. Là. On voit que ça commence à être un petit peu ridicule, là, cette dynamique-là où l'État est trop gourmand, même pour nos aînés. Puis ça fait aussi en sorte que, comme tu l'as bien dit, si on a des demandes de main-d'œuvre, des besoins de main-d'œuvre, le système actuel d'imposition fait en sorte que ça ne nous permet pas d'augmenter, ou du moins ça vient freiner certains aînés, comme tu viens de le dire, à retourner sur le marché du travail. Donc, c'est pas une approche qui est gagnante. Puis dans un contexte, on le sait, là, on l'a vu dans les dernières années, comment le coût de logement à Québec, la ville de Québec, c'est incroyable. Quand on regarde les augmentations en proportion, ça a augmenté énormément les loyers, le coût pour les résidences, ce qui fait en sorte que vous êtes un aîné, vous avez 72 ans, ça fait peut-être 5 ans que vous êtes à retraite, vous essuyez vraiment, en fait, vous avez le vent en face en matière d'inflation. L'épicerie, c'est le bœuf à 17 % sur un an. Le pâté chinois à Noël, il commence à coûter pas mal plus cher. Puis à un moment donné, ben c'est sûr qu'il va falloir que tu trouves des moyens, parce que les aînés, c'est aussi ceux qui sont le plus touchés par l'inflation. Il ne faut pas l'oublier. Ouais. Donc, en mettant de l'avant une telle politique, c'est s'assurer de les respecter aussi.
L'autre affaire qu'on entendait dans l'extrait que j'ai fait jouer juste avant qu'on se parle, une proposition qui sera amenée au congrès du Parti conservateur du Québec. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le marché du travail actuellement à temps plein, qui sont pas capables de joindre les deux bouts parce que le coût de la vie a trop augmenté, vont se trouver un deuxième emploi où là, le taux d'imposition va exploser, fait que ça donne quasiment pas grand-chose d'avoir deux puis trois jobs. Il va falloir revoir ces paliers d'impôts-là aussi. Là.
va falloir les revoir parce que quand on est rendu à avoir deux ou trois emplois, c'est rare que c'est vraiment par choix parce qu'on se dit, ben, ça me tente de travailler 65 heures semaine. C'est assez rare, là. Il y en a, puis je respecte ça, mais globalement, c'est souvent parce qu'encore une fois, le coût de la vie, oui, il frappe les aînés à faible revenu, il frappe tout le monde. Si vous avez 40 ans, une famille, ben, à un moment donné, vous voulez vous assurer que tout le monde soit bien habillé quand il fait froid dehors, que tout le monde mange bien, ben, ça fait en sorte qu'il va falloir travailler. Puis là, quand on arrive dans une dynamique d'imposition où, après votre 40 heures, ben, vous regardez votre compte de banque, il en reste plus, là, vous êtes dans le négatif, vous avez besoin d'un deuxième emploi, ben, l'État, après ça, vient vous punir pour ça. C'est pas normal, là. On devrait vraiment repartir à zéro puis s'assurer qu'on n'ait pas de lourde imposition sur le second. Sur le
temps supplémentaire également.
Absolument.
Puis ça, Gabriel, c'est sans compter le fait que, bon, moi, j'ai une maman là, de 88 ans, là, c'était son anniversaire hier, mais pour avoir discuté avec son entourage, ses colocataires, entre guillemets, parce qu'elle habite en RPA, quand on arrive pour sortir nos fameux REER, là, que toute notre vie, on nous a dit, mets de l'argent de côté, mets des REER de côté, ils sont imposés, puis pas à peu près quand c'est le moment de sortir ces sommes-là, même s'ils ont 85 ans passés.
Ça fait très, très mal, là. T'as raison de le dire. Une fois que tu sors tes REER, là, on est saigné, là. Donc, effectivement, puis ça met un peu aussi de l'avant le fait qu'on parle des aînés à faible revenu, on parle aussi des gens qui doivent travailler deux jobs, mais ce commentaire-là, pour moi, c'est quelque chose qui englobe le fait que c'est tout le monde, là, qui subit les hausses du coût de la vie puis qui va trouver ça difficile
dans
ses
quelques années.
C'est exactement ça. Fait qu'il faut quand même s'assurer, là, que le système d'imposition arrête de nous punir comme ça. Surtout dans les vieux jours, j'ai envie de dire, mais même à ça, si t'es rendu à travailler 45-50 heures semaine à ton emploi parce que t'arrives pas à joindre les deux bouts, est-ce que c'est possible d'être moins puni par l'État? Je pense que c'est une bonne proposition, puis j'ai hâte de voir ça sera quoi le résultat de cette discussion-là.
Autre sujet que je voulais discuter avec toi, c'est concernant les infrastructures au Québec, que ce soit nos hôpitaux, les écoles, les cégeps, les routes, les viaducs. On peut tous les nommer, les infrastructures. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement d'investissement qui a été fait pour la rénovation, oui, mais pour le maintien de ces infrastructures-là. L'Ordre des ingénieurs du Québec sort publiquement pour dire ben là, il faudrait peut-être arrêter de couper des rubans puis d'inaugurer de nouvelles infrastructures, mais plutôt s'occuper des nôtres. Eux autres proposent, moi, je suis pas nécessairement d'accord, là, mais ils proposent d'avoir un autre palier qui est comme une société d'État pour les infrastructures du Québec. Je trouve que c'est d'ajouter encore du gouvernement, là, mais il va falloir qu'on trouve une solution pour s'occuper de ce qu'on a au Québec.
Bon, effectivement, de commencer à rajouter des paliers puis des structures, on n'est pas des fans de ça, ça c'est clair, mais le propos reste et demeure, là. J'avais fait une étude en décembre dernier sur le sujet, puis c'est quand même de voir qu'il y a une surpriorisation de la bonification d'actifs. On veut construire des REM, on veut construire des nouvelles affaires. Un tramway, exactement. C'est parce qu'à un moment donné, est-ce qu'on peut s'assurer là que les écoles qui sont en décrépitude par ailleurs, hein, quand on regarde et on analyse là le plan québécois d'infrastructure sur 10 ans, c'est le poste qui est le plus rapidement en décrépitude, là, le déficit de maintien d'actifs, ça va vite au niveau des écoles. Les routes, c'est plus que 50% de ça. Et le gouvernement... C'est sûr que malheureusement, c'est du monde comme vous puis moi, là. Fait que, tu sais, eux autres, leur intérêt, c'est d'être réélus. Fait que c'est beaucoup plus sexy d'arriver devant la caméra et nous expliquer qu'on fait un projet transformationnel pour la ville de Québec. En réalité, c'est ça que le monde a besoin. C'est de s'assurer que le pont soit bien entretenu, c'est de s'assurer que les hôpitaux, les écoles soient bien entretenues puis les routes arrêtent d'être en décrépitude. Tu sais, je le dis, puis c'est évident la réponse, là.
En plus, Gabriel, c'est que le vérificateur général, dernièrement, un peu avant les fêtes, lorsqu'il a consulté là, le budget du gouvernement, si ma mémoire est bonne, disait ben il y a comme un déficit de 75 milliards pour justement le maintien des infrastructures. Il n'y a pas d'argent prévu pour ça, là.
Ben ça fait peur, parce qu'il y a déjà un déficit de maintien d'actifs. Donc ça, c'est de dire le coût que ça va prendre pour s'assurer que les infrastructures en mauvais état et en très mauvais état, là, c'est quand même 40% des infrastructures détenues par le gouvernement du Québec. Ce coût-là est à plus de 40 milliards. Ça, c'est déjà dans le plan. Mais là, de dire que le maintien d'actifs, pour pas que ça devienne en mauvais état et en très mauvais état, est de 70 milliards et c'est pas prévu par le gouvernement. Ouais. Ce que ça vient nous dire très concrètement, là, c'est que le gouvernement, il a fait déjà exploser les dépenses en capital pour les infrastructures. Donc, très concrètement, il n'y en a plus d'argent. Il ne peut plus augmenter cet argent-là. Fait que ce qu'on doit voir dans les prochaines années, c'est de faire le frein, de mettre le pied sur le frein dans la construction de nouvelles infrastructures. Évidemment, si on n'a pas le choix pour des écoles parce qu'une population n'est pas desservie, il y a une discussion à avoir, mais la priorité numéro un pour les infrastructures au Québec, c'est l'entretien, le maintien, attaquer le déficit de maintien d'actifs. Sinon, on va arriver à un point où nos enfants, dans 10 ans, vont avec des écoles puis il va y avoir de l'eau partout à terre. Ben, c'est ça, ça fonctionne, c'est exactement. Ça fonctionnera pas. Ça prend vraiment une nouvelle approche au sein du gouvernement du Québec et j'espère que ça va être un des enjeux de la campagne parce que l'état de nos infrastructures au Québec, c'est un réel problème. On parle souvent du déficit qui est problématique.
Oui.
L'infrastructure au Québec, c'est gravissime. Il faut en parler plus.
Mais Gabriel, je t'écoute, là, puis je... Dans le fond, on n'a tiré aucune conclusion, parce que cette année, on fête le 20e anniversaire de l'écrasement du viaduc de la Concorde. On n'a tiré aucune conclusion de cette tragédie-là qui a eu lieu en 2006 au Québec et qui a fait 5 morts. Je vous rappelle que c'était une négligence de conception, d'entretien notamment, et il y a eu un blâme du ministère des Transports. Est-ce qu'on n'a retiré aucune leçon de ce drame qui a marqué l'histoire du Québec?
Alors, j'espère qu'on en a tiré des leçons, mais moi, quand j'analyse les plans d'infrastructure sur 10 ans du gouvernement du Québec, je vois que la priorisation au maintien des actifs n'est pas assez claire à mon goût. On est à peine à 60 %. Il faut aller là à beaucoup plus haut que 60 % pour s'assurer que les infrastructures qu'on a, comme tu l'as bien dit, n'auront pas d'autres drames. Faut s'assurer. Pour moi, c'est vraiment la base, puis on va voir maintenant comment le gouvernement va évoluer. Il y a une campagne électorale. Il faut que ce soit dans les discussions incontournables. Ben oui, puis comment on peut faire aussi pour s'assurer de faire face notamment au fait que ça coûte de plus en plus cher, mais on n'a plus d'argent à mettre. Ben ça aussi, c'est une réalité. On ne peut pas augmenter l'argent qu'on met nécessairement au sein du gouvernement du Québec. Et donc, on a également eu une décote du SNP l'année dernière.
Exactement.
En partie due à nos dépenses en capital. Donc, il va falloir des politiques publiques et faire jouer le privé dans les infrastructures publiques. Sans quoi on n'y arrivera pas. Des délégations autoroutières comme on voit en France, comme on voit sur la 25 et la 30 dans le coin de Montréal, c'est des approches qui vont être incontournables, sinon on ne pourra pas s'assurer de maintenir toutes les infrastructures à maintenir au Québec.
Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal, toujours un plaisir. Merci de nous avoir parlé ce matin.
Merci.
C'est un plaisir partagé.
Bye, à bientôt. Là, on s'en va dans le mur, Gary. Parce que là, on n'a pas prévu aucun fonds. C'est comme si tu étais propriétaire d'un bloc à condo.
Ben, okay? Juste propriétaire d'une maison, là, on comprend
ben,
très
maison,
bien.
Mais mettons un bloc de condo là, où il y a 12 condos vendus, puis toi, tu es un de ces propriétaires-là, puis que personne dans l'édifice n'a prévu un fonds d'investissement d'urgence et ou de rénovation.
Fait que là, à un moment donné, le parking est
scrap. Le toit tombe, il y a deux vitres de pété. Le solage est craqué.
L'escalier n'arrache.
Puis vous n'avez pas une scène. Même vous devez de l'argent sur l'édifice. Il n'y a rien à faire. On s'en va dans le mur. Et ce n'est pas la première fois que l'Ordre des ingénieurs sort pour dire ça va mal. On a parlé avec quelqu'un, justement, avec Pierre, des ponceaux. Il y a des milliers de ponceaux au Québec. Puis il y en a, tu sais, il y a une cote de A à F.
Ouais.
Puis il y en a une bonne partie qui sont
F.
D, E, F, là. Fait qu'il va falloir qu'on prévoie un fonds de rénovation. Il va falloir que ça soit une priorité dans les prochaines annonces des gens qui se présentent pour être le prochain gouvernement.
Je sais que sur le boulevard Saint-Anne, à une certaine époque, il y avait des viaducs, il y avait du grillage de poules pour empêcher que la structure s'effrite sur nos voitures quand on passait. Si vous avez là encore connaissance du fait que dans la région de Québec, il y a des viaducs comme ça qui sont maintenus par du grillage de poulets. Peut-être nous le signifier à la messagerie 418-670-9098. C'est où le pire viaduc? Ouais. Est-ce que vous avez remarqué que
il y a
une décrépitude marquante sur certaines installations?
Que ce soit les routes, les hôpitaux, les écoles, les ponts, les viaducs,
les
ponceaux, là, on met du pitch. Oh, ça coule, on va mettre un peu de pitch. Sûr. OK, on fait une courte pause au retour. On va changer totalement de sujet. On va parler du défi 28 jours, entre autres. On va parler du problème d'alcoolisme avec Jean-Marie Lapointe, qui est porte-parole de la Maison Jean-Lapointe. On revient.
Couture.
Petite pause. On revient dans pas long.
Dans le mid.
Ouais.
Radio X.